Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour quelques instants et méditons ensemble sur les versets 1 à 7 de la Sainte Sourate Enchérah. Nous vous en présentons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك
بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العلي العظيم.
N'avons-nous pas ouvert pour toi ta poitrine et mis bas de toi ton fardeau qui écrasait ton dos et élevé haut pour toi ta renommée? Oui, car à côté de la difficulté est une facilité. Quand tu es libre donc, lève-toi et aspire à ton Seigneur.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Nous sommes le samedi 15 Azar 1399 du calendrier iranien, 5 décembre 2020. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre bulletin d'information qui sera suivi d'un commentaire politique. L'Iran exhorte l'Agence internationale de l'énergie atomique à garantir la confidentialité des informations après la divulgation d'un rapport aux médias. La situation de la pandémie de coronavirus s'est améliorée en Iran, a déclaré le président Rouhani. Téhéran exhorte Berlin à mettre fin à son comportement malveillant en Asie occidentale. Et la Russie lance une campagne de vaccination de masse contre la COVID-19. C'étaient les principaux titres de l'actualité. Voici le journal. Le président iranien a déclaré que la tendance à la hausse des infections au coronavirus avait perdu de sa vigueur dans des dizaines de zones sensibles grâce aux restrictions. Hassan Rouhani a précisé que le nombre de zones marquées en rouge est passé de 160 à 64. Le rouge indique le risque d'infection le plus élevé. Selon M. Rouhani, 96 villes et villages, dont la capitale Téhéran, sont désormais considérés comme orange, ce qui suggère un risque plus faible. Le président a noté que les mesures restrictives seront assouplies dans les zones où le taux d'infection diminue. L'Iran a imposé une série de restrictions à l'échelle nationale il y a 2 semaines, dans le but de contenir la propagation du virus. Le COVID-19 a tué plus de 50 000 personnes et a infecté plus d'un million d'autres depuis son apparition en Iran. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, a appelé les signataires européens de l'accord sur le nucléaire à honorer leurs engagements au titre de l'accord de 2015. Zarif a également appelé l'Allemagne à honorer ses obligations et à cesser de violer l'accord. Il a exhorté Berlin à mettre fin à son comportement malveillant en Asie occidentale et à son soutien au terrorisme israélien. Le haut diplomate iranien a fait ses commentaires en réaction aux propos de son homologue allemand Heiko Maas, plus tôt vendredi. Le ministre allemand des Affaires étrangères a tenu ses propos alors que la République islamique d'Iran a déclaré à plusieurs reprises qu'elle ne négocierait pas sur ses capacités balistiques et défensives. L'ambassadeur et représentant permanent de l'Iran auprès des organisations internationales à Vienne, Kazem Ghalibabadi, a critiqué la fuite d'un rapport confidentiel de l'Agence internationale de l'énergie atomique sur un projet iranien visant à installer 3 nouvelles cascades de centrifugeuses sur le site de Natanz, déclarant que l'organisation s'était engagée à protéger les informations confidentielles. Le commentaire d'aujourd'hui est consacré à ce sujet. Moscou a commencé à distribuer samedi le vaccin Sputnik V contre le COVID-19 à travers 70 cliniques, première étape d'une campagne de vaccination de masse de la Russie contre le virus. Selon le groupe de travail sur le coronavirus, le vaccin russe sera d'abord mis à la disposition des médecins et autres personnels médicaux, des enseignants et des travailleurs sociaux, afin de cibler d'abord les personnes les plus exposées à la maladie. Le vaccin Sputnik V est administré en 2 injections, la deuxième dose étant prévue 21 jours après la première. La télévision libanaise Al-Manar a diffusé des images d'un drone de mouvement de la résistance islamique du Liban, le Hezbollah, volant dans les profondeurs des territoires sous contrôle d'Israël en plein exercice israélien en octobre. Le drone de reconnaissance est montré en train de filmer des centres de commandement militaire en Galilée et des fermes occupées de Sheba. Les images aériennes révèlent les activités menées dans les centres de commandement militaire en Galilée ainsi qu'à la frontière entre le Liban et le plateau du Golan. Le drone serait revenu à sa base au Liban sans être détecté par les radars israéliens. Le Hezbollah a mené l'opération au cours des exercices d'Israël qui simulaient une guerre à grande échelle avec le Liban et la Syrie. Un objectif clair de ces manœuvres israéliennes était d'empêcher les drones de traverser les territoires contrôlés par Israël. Le régime d'occupation a mené 2 guerres qui se sont soldées par un fiasco total contre le Hezbollah dans les fermes de Sheba en 2000 et en 2006. Et enfin, le président sortant des États-Unis, Donald Trump, a ordonné le retrait de la majorité des troupes américaines de Somalie d'ici début 2021, c'est-à-dire juste avant son propre départ du pouvoir, a annoncé le Pentagone. Une partie des forces pourront être redéployées en dehors de l'Afrique de l'Est. Toutefois, le reste des forces sera repositionné de Somalie vers les pays voisins afin de permettre des opérations transfrontalières par les États-Unis et les forces partenaires, a déclaré le ministère américain de la Défense dans un communiqué. Le commandement américain en Afrique a maintenu quelques 700 soldats du personnel appartenant à d'autres opérations de sécurité américaines et des sociétés de sécurité privées en Somalie. Le représentant permanent de l'Iran auprès des organisations internationales basées à Vienne a appelé l'Agence internationale de l'énergie atomique, AIEA, à garantir la confidentialité des informations relatives aux garanties après qu'un rapport confidentiel de l'organisme de surveillance nucléaire de l'Organisation des Nations Unies sur l'installation de Natanz ait été divulgué aux médias. Kazem Gharibabadi a fait ses remarques dans un message sur son compte Twitter vendredi, alors que le rapport confidentiel de l'AIEA, obtenu par Reuters, indiquait que la République islamique d'Iran prévoyait d'installer 3 autres cascades de centrifugeuses IR2M dans l'usine d'enrichissement d'uranium de Natanz. Dans une lettre datée de 2 décembre 2020, l'Iran a informé l'agence que l'exploitant de l'usine d'enrichissement en combustible de Natanz avait l'intention de commencer l'installation de 3 cascades de centrifugeuses IR2M, rapporte l'AIEA dans un rapport. M. Gharibabadi a écrit « Le rapport confidentiel de l'AIEA, basé sur la lettre confidentielle de l'Iran, est apparu dans les médias juste avant que les membres du Conseil des gouverneurs de l'AIEA ne puissent le retrouver. L'agence n'est pas seulement responsable de la mise à jour du développement, mais doit assurer aussi la confidentialité des informations sur les garanties, a-t-il ajouté. Si ni l'agence ni ses États membres ne doivent pas être blâmés pour cette faille de confidentialité, l'AIEA devrait revoir ses mécanismes de confidentialité, notamment en ce qui concerne l'utilisation des moyens de communication sûrs et confidentiels. Vendredi, le représentant permanent de la Russie auprès des organisations internationales à Vienne, Mikhail Ulyanov, a critiqué la fuite du rapport confidentiel de l'AIEA sur l'Iran. Un autre rapport confidentiel de l'AIEA sur l'Iran a été divulgué aux médias de masse immédiatement après sa diffusion au Conseil des gouverneurs. L'ambassadeur d'Iran, dans son compte Twitter, a déjà réagi en suggérant de renforcer les mécanismes de confidentialité. Bonne idée, mais est-ce que cela nous aidera ? A-t-il demandé dans un texte. L'Iran a montré au monde le caractère pacifique de son programme nucléaire en signant le plan global d'action conjoint avec 6 États du monde, à savoir les États-Unis, l'Allemagne, la France, la Grande-Bretagne, la Russie et la Chine en 2015. L'accord sur le nucléaire était également ratifié sous forme de la résolution 2231 du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies. Cependant, la sortie de Washington en mai 2018 et la réimposition unilatérale des sanctions contre Téhéran ont laissé l'avenir de l'accord historique dans l'incertitude. Téhéran est resté pleinement conforme au plan global d'action conjoint pendant une année entière, attendant que les co-signataires remplissent leur part du marché en compensant les effets des interdictions de Washington sur l'économie iranienne. Les parties européennes n'ayant pas réussi à le faire, Téhéran a décidé en mai 2019 de suspendre ses engagements dans le cadre de l'accord nucléaire.
Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue dans une nouvelle édition du débat en ce vendredi 4 décembre 2020. Dans une interview au New York Times, le président élu des États-Unis, Joe Biden, a confirmé son intention de rejoindre l'accord sur le nucléaire iranien de 2015, tout en reconnaissant que ce sera une tâche difficile. Pourtant, Joe Biden a en effet lié sa volonté de rejoindre l'accord nucléaire à de nouveaux pourparlers des négociations auxquelles Joe Biden chercherait à, en effet, associer les alliés régionaux des États-Unis comme l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis. L'annonce de la stratégie de Joe Biden envers l'accord nucléaire iranien intervient alors que l'Assemblée islamique d'Iran a adopté en effet une importante mesure stratégique en riposte à l'assassinat de l'éminent scientifique nucléaire iranien Mohsen Fakhrizadeh il y a juste une semaine. Aujourd'hui, dans le cadre de cette édition du débat, nous allons nous pencher sur cette stratégie de Joe Biden envers l'accord nucléaire, la réaction de la République islamique d'Iran et surtout cette motion adoptée par le Parlement iranien. Veuillez rester avec nous jusqu'à la fin de cette émission.
Le président américain élu n'a pas tardé à envoyer un message très important à l'Iran à travers le New York Times, confirmant sa volonté de revenir à l'accord nucléaire, soulignant que sans cet accord, les pays de la région tomberaient dans une course nucléaire dont les risques sont imprévisibles. Ce message, qui a été arrangé à la hâte une semaine après l'assassinat de l'éminent scientifique nucléaire, Mohsen Fakhrizadeh, dans une opération terroriste près de la capitale Téhéran, comporte plusieurs points. Le premier, l'affirmation de Biden selon laquelle les négociations pour revenir à l'accord nucléaire aborderont plusieurs questions, notamment le démantèlement des programmes de missiles balistiques de l'Iran. Le second, associer d'autres pays aux négociations comme le Royaume d'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis sans aucune mention de l'Égypte, de l'Irak ou de la Turquie, et cela signifie placer l'Iran et ses programmes nucléaires sous tutelle régionale. Troisièmement, prolonger la période de restriction des activités nucléaires iraniennes, ce qui signifie prolonger la durée de l'accord nucléaire à plus de 10 ans. Quatrièmement, obtenir un engagement iranien d'arrêter tout soutien politique, militaire et financier aux forces de la résistance au Yémen, au Liban, en Syrie, en Irak et en Palestine occupée. Le message de Biden intervient alors que les législateurs iraniens ont pris une décision unanime de venger l'assassinat de Fakhrizadeh, accompagné d'autres décisions visant à augmenter le taux d'enrichissement d'uranium à plus de 20%. Le projet de loi appelle également à l'augmentation des stocks d'uranium faiblement enrichis. La double urgence de la motion avait déjà été approuvée dimanche au Parlement. Cette décision faisait suite à l'assassinat de l'éminent scientifique iranien en nucléaire et en défense, Mohsen Fakhrizadeh. Une source bien informée a déclaré que la ratification des grandes lignes du projet de loi était la première réponse pratique de l'Iran au meurtre du scientifique.
Retour au plateau de l'émission du débat. Merci de votre fidélité pour cette émission. Nous avons le plaisir d'accueillir depuis Toulouse Monsieur le professeur Pierre Dortiguier, philosophe et politologue français, et depuis Damas, Maître Arnaud Develay, juriste international et analyste politique. Maître Develay, bonjour et merci infiniment d'avoir accepté notre invitation.
Oui, bonjour à vous et bonjour à Dr Dortiguier.
Maître Develay, si vous voulez bien, on va commencer avec l'annonce de la stratégie de Joe Biden envers l'accord nucléaire. On s'y attendait d'ailleurs. Dans une interview au New York Times, Joe Biden a confirmé sa volonté de rejoindre l'accord nucléaire. Pourtant, alors, il a mis en avant, en effet, de nouvelles discussions sur d'autres sujets, que ce soit le programme balistique iranien, la politique régionale de la République islamique d'Iran, ou encore l'implication d'autres alliés, des alliés en effet régionaux des États-Unis dans des pourparlers. Et même la prolongation en effet de la durée de ce potentiel accord. Avant cette annonce, selon un certain nombre d'observateurs, la stratégie de Biden consisterait en effet, à mettre fin à la politique de pression maximale de son prédécesseur, Donald Trump, et la levée des sanctions unilatérales. Quel premier regard portez-vous sur cette annonce, sur cette stratégie de Joe Biden envers l'accord nucléaire, Maître Develay?
Alors, déjà, sur un plan stricto sensu, purement légal, L'accord sur le nucléaire de juillet 2015, donc signé en juillet, le fameux 5 plus 1, a fait l'objet d'une résolution au Conseil de sécurité, la résolution 2231. Donc c'est le droit en vigueur actuellement. Les États-Unis, au travers de l'administration de Donald Trump et de son retrait unilatéral du 10 accord en mai 2018, est une violation en soi de l'esprit et des négociations qui avaient été entreprises il y a déjà 5 ans de bonne foi. Donc il est à cette conjoncture déjà pour commencer hors de question d'évoquer une quelconque nouvelle phase de négociation ou de pourparlers qui, je l'assume, serait en fait un préliminaire à un codicille à cet accord, dans la mesure où l'accord tel qu'il a déjà été signé, ratifié et enregistré aux Nations Unies n'a pas été respecté. Dès lors, comment peut-il être mis en avant comme forme de récompense la suspension de la doctrine maximale qui déjà était en soi un acte de guerre en droit international et le rétablissement, la suspension des sanctions. L'Iran a toujours été, selon les visites répétées de l'Agence internationale atomique dans le cadre de la supervision de l'accord de 2015, en conformité avec ses obligations. Si l'Iran a décidé d'augmenter la force de ses centrifugeuses, le traité lui-même le lui permettait, justement. C'était une forme de tit for tat en réaction à l'imposition des sanctions snapback. Donc maintenant, l'idée de revenir à l'accord, mais avec des conditions, déjà, ça semble complètement ahurissant. Si on parle du principe qu'il s'agit de renforcer le régime de non-prolifération nucléaire, j'ajouterai une autre chose, c'est que on ajoute des partenaires régionaux à l'accord. Fort bien, mais on oublie quand même le principal violateur du régime de non-prolifération nucléaire, à savoir l'antité-sioniste. L'antité-sioniste, dans le discours, dans les propositions de Joe Biden, n'est nulle part mentionné. Or, il est de notoriété publique que l'antité-sioniste possède entre 80 et 150 têtes nucléaires, qu'elle ne les a jamais déclarées, qu'elle repose sur une stratégie d'ambiguïté, à savoir ne pas confirmer mais ne pas le nier non plus. Dès lors, dans ces conditions, c'est difficile pour l'Iran de ne serait-ce que considérer une extension déjà de traité tel qu'il existe, qui inclurait en plus de ça des chapitres sur sa capacité balistique, donc la capacité pour l'Iran à se défendre alors que l'Iran a fait l'objet d'attaques et de provocations répétées depuis des années, et en plus de ça, portant sur une influence que l'Iran aurait dans la région sur des milices, alors que bon, tout ça n'a jamais été prouvé ou établi. Je parle notamment du théâtre de guerre qui se déroule actuellement au Yémen, où des allégations de ce type ont été colportées, mais aucune preuve matérielle n'a jamais été apportée dans ce sens. Donc on est encore dans la spéculation, on est encore dans l'incrimination, on est encore dans la diffamation, et on essaye après de se présenter comme étant un pacificateur, alors que, en ce qui concerne les États-Unis, on est la nation, le pays qui a violé l'esprit même du traité et qui maintenant souhaiterait revenir et imposer de nouvelles conditions dans le cadre d'un accord élargi qui dénature complètement les négociations qui avaient eu lieu en 2015, d'une part, et d'autre part, même dans le contexte d'un chapitre supplémentaire dans un contexte, dans un régime de non-prolifération nucléaire, fait fi du plus gros violateur du régime de non-prolifération nucléaire dans la région, à savoir l'État sioniste. C'est inacceptable.
Merci infiniment pour ces précisions. Maître Develle, restez avec nous, s'il vous plaît. On va tout de suite rejoindre à Toulouse, monsieur le professeur Pierre Dortillier, philosophe et politologue français. Monsieur le professeur, bonjour. Merci d'être en ligne avec nous.
Bonjour, monsieur Codamandi. Bonjour à vos auditeurs et bonjour à Maître Develle.
Monsieur le professeur, concernant la stratégie, l'annonce de la stratégie de Joe Biden envers l'accord nucléaire, Alors, première question, est-ce que Joe Biden fait, en effet, fait l'opposé de Trump dans ce dossier, ou bien il s'agit de la même stratégie avec un changement de tactique? Et puis une deuxième question, pourquoi l'Iran a toutes les raisons de ne pas accepter de nouvelles négociations et bien entendu des conditions imposées par l'administration, la nouvelle administration américaine?
C'est un changement, en effet, monsieur, de forme. Mais en réalité, et c'est mon opinion, mais je crois que c'est l'opinion également de très nombreux observateurs, mais je me permets d'insister quand même, parce que c'est un sentiment profond que j'ai là-dessus, c'est que Joe Biden est un homme qui est, qui appartient à un milieu qui veut s'accrocher au Proche-Orient, à la différence de l'autre administration, de M. Trump, qui lui entendait d'une façon ou d'une autre se dégager du Proche-Orient. Je dois dire que cet entretien au New York Times fait apparaître une volonté d'intervention. Il a dit en effet, je ne connais le texte que par ce que le Figaro en a rapporté. Il a dit que pour introduire une stabilité au Proche-Orient, il faudrait s'occuper du nucléaire iranien. C'est-à-dire que le nucléaire iranien va être une manière pour lui et pour ceux qui l'entourent de vouloir dicter des conduites politiques à l'Iran. Voyez-vous, la forme qu'il emploie peut être une forme douce, une forme accommodante, disons. Mais en réalité, c'est une manière interventionniste, à notre avis, beaucoup plus importante que ne l'a fait, que ne l'a été celle du président Trump. Je dois dire que, comme l'a dit Maître Develet, il faut d'abord, dans toutes ces discussions, dire qu'il y a au Proche-Orient une réalité d'armement atomique. La première réalité étant celle, évidemment, la première de toutes, la plus forte de toutes, étant celle de l'entité sioniste, que chacun doit savoir depuis l'affaire de Vanunu, du fameux physicien Vanunu qu'il a inventé autrefois, etc. Israël dispose, en effet, de toutes ces ogives atomiques, et lui qui représente, disons, une menace, un potentiel atomique extraordinaire. Donc on ne peut pas parler d'introduire une stabilité, d'effacer, d'éviter toute menace atomique dans cette région si, évidemment, Israël n'est pas mis en cause, si la politique d'Israël n'est pas mise en cause. Il y a quand même dans cet entretien de M. Biden quand même quelque chose qu'il faut remarquer, c'est que il parle de, comme l'avait fait le président de la République chez nous, il parle des missiles, de vouloir corriger ou surveiller la production de missiles iraniens. C'est M. Macron qui en avait parlé aussi. Et ensuite, il présente l'intervention ou l'aide que peut apporter la République islamique d'Iran à la Syrie. Il le présente comme une menace quand même pour la stabilité de la région. Il veut aussi que l'Arabie saoudite, comme l'a bien dit le commentaire d'introduction, s'occupe, n'est-ce pas, de ces affaires-là, soit mêlée à une sorte d'examen des capacités de l'Iran. Pourquoi pas d'autres pays? Non, on choisit justement l'Arabie saoudite ou les États du Golfe, qui sont, on le sait quand même, des clients de l'Angleterre, des clients des États-Unis, des clients de l'Occident, qui sont d'ailleurs très attachés maintenant, on le sait, ou de facto, ou de fait ou de droit, par des reconnaissances locales, en particulier des Émirats arabes unis, à l'entité sioniste. Donc je crois qu'il y a là une ruse, à notre avis, je dirais, conclurai là-dessus, de M. Biden. On le présente comme président, Dieu seul sait ce qui se passera, tout n'est pas encore terminé dans cette crise américaine intérieure. C'est une crise très profonde entre deux forces opposées très nettes.
Merci.
Ceci dit, l'Iran doit se méfier, à notre avis, plus de la, comment on appelle, ce que j'appellerais d'une ruse, voyez-vous, de Biden que de la franchise brutale de M. Trump.
Merci infiniment.
Je crois qu'en effet, il y a une volonté interventionniste très profonde dans ce milieu démocrate, ce milieu qui était autour d'Obama, qui en apparence, disons, prêche des choses abstraites, disons, tout à fait humanistes, mais en réalité, veulent se plonger profondément, disons, dans ces questions du Proche-Orient, au nom de la liberté, au nom de la défense de la démocratie, etc., et sont, à notre avis, je vais tirer ça, c'est ma conclusion, beaucoup plus interventionnistes, ou le seront, ou le seraient, disons, que ne l'a été John Biden, que n'a été Donald Trump.
Merci pour ces précisions. Monsieur le professeur, restez avec nous. Maître Develay, alors, bien sûr, face à cette ruse, comme disait Monsieur le professeur Dortiguier, l'Iran ne s'est pas laissé prendre dans le piège. Hier, le ministre iranien des Affaires étrangères a réfuté, en effet, de nouvelles négociations, bien sûr, sur l'accord nucléaire, sur ce qui a été négocié et conclu auparavant. Ceci étant dit, revenons à cette mesure stratégique du Parlement iranien. Bien sûr, alors ces évolutions interviennent dans un contexte très particulier après l'assassinat il y a tout juste une semaine de l'éminent scientifique nucléaire iranien Mohsen Fakhrizadeh vendredi dernier. Alors, comment évaluez-vous cette mesure, cette motion adoptée par le Parlement iranien concernant l'accord nucléaire et bien sûr en riposte à l'assassinat lâche du scientifique iranien?
Bah écoutez, c'est tout à fait cohérent dans un contexte où on respecte la lettre du droit. L'Iran est parfaitement cohérent depuis le début dans ce contexte de cet accord nucléaire. Avec tout ce qui a pu se passer depuis le 8 mai 2018, donc, et le retrait unilatéral américain, on pourrait penser, si on ne paye pas attention, qu'il s'est passé des choses qui altèrent complètement les choses telles qu'elles ont été signées. Mais il faut faire fi de ces agitations, de ces gesticulations, tantôt qu'elles soient exercées par le gouvernement français ou qu'elles soient dans le contexte des menaces de la doctrine de pression maximale exercée par les États-Unis depuis lors. Le fait est que nous avons un accord. L'accord, il existe, il a été ratifié, il est reconnu par les Nations Unies. Et le ministre des Affaires étrangères de la République islamique d'Iran a été très clair. Pour lui, la précondition à toute discussion avec les États-Unis, c'est que les États-Unis rejoignent l'accord et respectent les conditions qui ont été jusqu'à présent acceptées par toutes les parties prenantes et s'acquittent de ses responsabilités. Après, si on peut créer un climat de confiance sur cette base-là, et ouvrir peut-être d'autres chapitres de négociation sur tel ou tel sujet, c'est une autre histoire. Mais il ne peut pas être considéré pour l'instant quoi que ce soit tant que les États-Unis n'auront pas rejoint l'accord et tant qu'ils ne se seront pas acquittés sans aucune considération aucune de leurs obligations sur cet accord.
Merci infiniment. Maître Develay, une toute dernière question à M. le professeur Dortiguier. Monsieur le professeur, avec les récentes déclarations de Joe Biden, avec le manque d'initiative, voire l'inaction des partenaires européens, des signataires européens de l'accord nucléaire, avec les tergiversations des partenaires régionaux des États-Unis, alors à quoi il faudrait s'attendre concernant l'avenir et le sort de l'accord nucléaire de 2015?
Cet accord nucléaire de 2015 sera caduque si... il sert de tête de pont, disons, à des interventions dans les affaires intérieures, la politique militaire, la politique de défense de l'Iran. Je crois qu'il y a, comme l'a dit Maître Develay, deux étapes, bien sûr, à considérer. La première est bien sûr celle d'auto-affirmation par l'Iran de ses capacités de maîtriser, disons, son développement atomique, etc., le nucléaire. C'est une première chose. Et une deuxième chose, alors, une fois sur ce droit acquis, qui est un droit de souveraineté, comme nous l'avons, nous, en France, passer à une deuxième étape, qui est une étape, évidemment, peut-on dire, de règlement des conflits locaux, bien sûr, ça, auquel l'Iran ne peut que participer et ne peut, disons, que jouer un rôle très important vu sa puissance, disons. Mais je crois que ce n'est pas là le sens de la politique de M. Biden. Je crois que la politique de M. Biden, je le redis simplement, est une politique, à notre avis, interventionniste, Vous savez, la différence entre ce que chacun s'interroge, entre Trump et Biden. Trump est un homme d'affaires, avec la brutalité de l'homme d'affaires. Lui est un homme politique. Il sait, disons, la puissance des paroles. Il sait, disons, souffler le chaud et le froid. Et dans cette intervention, puisque c'est l'objet du débat d'aujourd'hui, dans son entretien avec le New York Times, qui représente, vous savez, des forces très, très importantes aux États-Unis, très proches d'Israël, du reste, il faut le dire, hein. Je crois que là, il a montré, disons, il a fait preuve, disons, d'une certaine ruse, d'un certain manque de franchise, qui doit inciter, à notre avis, l'Iran, à de la prudence. Car, il y a des passages de cet article qui montrent qu'il y a quand même une sorte d'animosité, d'hostilité, mais elle est cachée, elle est hypocrite. À notre avis, parmi nos adversaires, les pires sont les hypocrites.
Merci. On va terminer cette émission avec Maître Develay. Il nous reste 2 minutes. Maître Develay, est-ce que vous partagez le point de vue de M. le professeur d'Ortiguière? Est-ce que cet accord avec ces récentes évolutions et les déclarations de Joe Biden, est-ce qu'il a un certain avenir?
Écoutez, il faut bien comprendre une chose. Aux États-Unis, vous avez les blancs, ou plutôt les rouges et les bleus. Mais quand ça en vient à la politique au Moyen-Orient, c'est le troisième rail de la politique américaine, c'est l'entité sioniste qui a la main sur tous les dossiers. Ce qui veut dire que, comme l'a souligné le professeur d'Ortiguier, au moins avec Donald Trump, on avait peut-être la brutalité, mais les choses étaient claires. Avec un candidat de l'establishment comme Joe Biden, les choses paraissent effectivement présentées d'une manière respectable et avec les formes, mais le fond reste le même. Et le fait qu'il ait d'ailleurs lui-même coopté cette notion d'ouvrir des chapitres comme condition préalable à ce que l'accord puisse rester en vie du fait que les Américains rejoindraient une forme d'accord élargi prouve bien que dans la continuité, Joe Biden en fait reprend de facto l'approche prônée par Donald Trump. Certes, au travers de sa doctrine maximale, de pression maximale, étant la seule différence, mais en tout cas, le but ultime est le même, c'est d'empêcher l'Iran d'assurer sa sécurité, que ce soit par le biais de ses capacités balistiques, ou que ce soit dans le contexte, par exemple en Syrie, effectivement, où, je le rappelle encore une fois, la République islamique d'Iran a été invitée par le gouvernement de Bachar el-Assad. Donc à partir de là, je ne vois vraiment pas en quoi la présence iranienne en Syrie, pour peu qu'elle soit juridiquement parfaitement légale et légitime, fasse l'objet d'un chapitre de négociation supplémentaire. Je ne reviendrai pas sur les allégations concernant les interventions ou l'influence qu'aurait l'Iran sur le conflit au Yémen. Aucune preuve n'a été mise en avant, que ce soit d'une manière ou d'une autre. Et tout ça, ce n'est que de la pure spéculation. Ce sont des campagnes de presse qui sont juxtaposées les unes sur les autres et qui sont de manière à créer, si vous voulez, cette idée, cette espèce d'image de l'Iran comme étant un État qui ne respecterait pas ses obligations et qui serait un danger pour la région, alors qu'en fait, c'est l'Iran, avec ses alliés, qui a combattu et défait le terrorisme dans la région. Et ça, il ne faut pas l'oublier.
Maître Arnaud Develay, juriste international, analyste politique depuis Damas, monsieur le professeur Pierre d'Ortiguier, philosophe et politologue depuis Toulouse. Je vous remercie infiniment d'avoir bien voulu participer à cette édition du débat. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de votre attention. Excellente journée à toutes et à tous. Au revoir et à très bientôt.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission Focus. Le président iranien Hassan Rouhani a déclaré que personne dans le monde ne s'attendait à ce que l'Iran montre ce niveau de résistance contre la guerre économique des États-Unis. Nous assistons à une guerre économique totale. La guerre qui nous a été imposée au cours des 3 dernières années est bien pire que la guerre imposée de 8 ans, la guerre de l'ancien régime irakien de Saddam Hussein contre l'Iran. C'était une guerre économique et personne dans le monde ne s'attendait à ce que l'Iran fasse preuve d'une si bonne résistance, a souligné Hassan Rouhani qui s'exprimait jeudi lors de l'inauguration de plusieurs projets dans la province de l'Est par vidéoconférence. De nombreux dirigeants mondiaux me demandent lors de nos contacts que comment pourriez-vous résister à cette guerre, a-t-il poursuivi, ajoutant que bien sûr le peuple iranien est sous pression économique, mais que l'approvisionnement en gaz, en eau et en électricité du pays n'a pas été interrompu et que l'Iran n'avait pas besoin d'importer du carburant. Le pays est plutôt devenu un exportateur de carburant. Après le retrait de l'accord nucléaire signé en 2015, en mai 2018, l'administration Trump a imposé des sanctions sévères à Téhéran dans ce que Washington a qualifié de politique de pression maximale pour forcer l'Iran à conclure un nouvel accord. Cependant, Téhéran a exclu la possibilité de renégocier le plan global d'action conjoint, l'accord sur le nucléaire, affirmant qu'il continuerait à résister au maximum face au comportement d'intimidation des États-Unis. Téhéran a réduit également ses engagements envers le plan global d'action conjoint de manière réversible, exhortant les autres parties à l'accord à de sauvegarder les intérêts économiques du pays dans le cadre de l'accord. Récemment, le Parlement iranien a adopté un plan d'action stratégique qui donne mandat au gouvernement et à l'Organisation iranienne de l'énergie atomique de stimuler l'industrie nucléaire du pays, annonçant des dates limites pour que les autres signataires du plan global d'action conjoint mettent en œuvre leurs engagements. L'Iran appelle à un consensus mondial contre les actions coercitives et unilatérales. L'ambassadeur et représentant permanent de la République islamique d'Iran auprès des organisations internationales à Vienne, Kazem Gharibabadi, s'exprimant lors du séminaire diplomatique intitulé « Mesures coercitives et unilatérales en cette période de crise de COVID-19 », a appelé la communauté internationale à mettre en place un consensus contre les sanctions contre les actions coercitives et unilatérales. Selon l'IRNA, lors de ce séminaire qui s'est déroulé virtuellement à l'initiative des représentations permanentes de l'Iran, de Cuba et du Venezuela à Vienne, avec la participation de plus de 30 VPI, Kazem Gharibabadi a déclaré, l'une des caractéristiques de l'histoire contemporaine et la tendance de certains pays, en particulier les États-Unis, à imposer des mesures coercitives et unilatérales contre les pays cibles, conformément à leurs objectifs intéressés de politique étrangère. Soulignant que ces actions ont un impact direct sur la souveraineté des pays touchés et d'autres pays, de ce responsable iranien a déclaré, la République islamique d'Iran est l'un des pays qui est victime de tels actes est inhumain. Valéry Giscard d'Estaing avait un esprit vif et des connaissances approfondies concernant la révolution islamique en Iran. Suite au décès de Valéry Giscard d'Estaing, l'ancien président français entre 1974 et 1981, l'ambassadeur d'Iran en poste en France lui a rendu hommage et a écrit que Valéry Giscard d'Estaing avait un esprit vif et des connaissances approfondies concernant la révolution islamique en Iran. Valéry Giscard d'Estaing, ancien président français, fut l'un des rares hommes politiques européens à être connu pendant la révolution islamique en Iran. Notre dernière rencontre s'est déroulée en février 2019, avant le Covid-19, et puis par des échanges de courriers. Cet homme politique disparu avait un esprit vif et des connaissances approfondies concernant la révolution islamique en Iran et l'arrivée en France du fondateur de la République islamique d'Iran et son séjour à Nofle-le-Château et les évolutions délicates de cette période, a écrit par l'Ambroise Mille, ambassadeur d'Iran, en poste à Paris sur son compte Twitter. Au Liban, le Hezbollah compte annoncer la poursuite en justice d'un certain nombre de personnalités et de sites médiatiques qui l'ont injustement et faussement accusé de crimes contre l'humanité dans l'explosion du port de Beyrouth et une série d'autres diffamations lors d'un discours d'un membre du bloc de la loyauté à la résistance, le député Ibrahim Al-Moussavi, devant le palais de justice de Beyrouth, vendredi 4 décembre 2020 à 10h30 heure locale. Le Hezbollah a déposé une plainte devant la justice de son pays ce jeudi contre Bahad-Eddin Hariri, qui a accusé le parti de contrôler l'aéroport et le port. Al-Jadid a rapporté que Baha Hariri, fils de Rafiq Hariri, ancien premier ministre du Liban, et frère de Saad Hariri, chargé de former le gouvernement libanais, avait précédemment déclaré au quotidien Daily Mail le 7 août que tout le monde à Beyrouth sait que le Hezbollah contrôle le port et l'aéroport de Beyrouth et il est clair que le Hezbollah est responsable du port et de l'entrepôt où le nitrate d'aluminium a été stocké. L'Assemblée générale des Nations unies a réitéré de ce jeudi 3 décembre son soutien à la souveraineté de la Syrie sur le Golan occupé, considérant comme nulle et non avenue toutes les mesures prises par l'occupation israélienne. À cet égard, selon l'agence syrienne Sana, 88 États ont voté en faveur d'un projet de résolution affirmant ce droit présenté par la Syrie, tandis que 8 pays et l'entité d'occupation israélienne se sont opposés et 62 pays se sont abstenus de voter. La résolution demande à Israël de se retirer de la totalité du Golan jusqu'à la ligne de 4 juin 1967 et de respecter les résolutions concernant le Golan, notamment au Relab. La résolution 497 de l'an 1981. Elle considère la décision israélienne d'imposer ses lois au Golan occupé comme nulle et non avenue et sans aucun effet juridique international. L'entité sioniste a occupé depuis la guerre des Six Jours en 1967 1200 km² du plateau du Golan et l'a annexé en 1981. Le délégué de la Syrie auprès de l'Organisation internationale, Bachar al-Jafari, a déclaré « L'administration américaine actuelle a révoqué les signatures de l'administration précédente sur cette région. » Le droit souverain de la Syrie sur le Golan occupé ne fait pas l'objet de négociations ou de concessions et n'est pas soumis à la prescription. La Syrie ne renoncera jamais à son droit de le restaurer par tous les moyens garantis par la charte, les principes du droit international et les résolutions des Nations Unies, a-t-il ajouté encore. « La Chine a exhorté les États-Unis à rejeter la haine et à changer leur état d'esprit de déformé envers le Parti communiste chinois PCCI en réponse aux derniers durcissements des règles en matière de visa qui devraient être appliquées aux membres de ce parti. Notons les informations indiquant que les États-Unis pourraient imposer des restrictions à l'entrée des membres du Parti communiste chinois. La porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Hua Jiying, a déclaré que le monde voyait clairement cela comme une escalade de la répression politique contre la Chine par certaines forces extrêmes anti-chinoises aux États-Unis en raison de forts préjugés idéologiques et d'une mentalité de guerre froide profondément ancrée. La Chine s'oppose fermement à de telles pratiques, a déclaré Mme Hua lors d'une conférence de presse quotidienne. Au lieu de servir les intérêts américains, cela ne fera qu'affaiblir ou nuire à l'image autoproclamée de confiance et d'ouverture du pays, ainsi qu'à ses avantages systématiques, a-t-elle ajouté encore. Elle a exhorté le gouvernement américain à voir la Chine et son développement de manière plus rationnelle, calme et impartial, et à abandonner la haine et les sentiments d'être déformés envers le Parti communiste chinois. Eh bien, chers amis, ici touche à sa fin cette émission Focus. Merci infiniment de l'avoir suivi. Merci beaucoup pour votre fidélité à la radio francophone iranienne.